France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
En janvier 2025, aux États-Unis, la société Apple a accepté de payer 95 millions de dollars à des consommateurs pour qu'ils mettent fin à leur poursuite. Ils l'accusaient d'avoir enregistré à leur insu leur conversation privée via Siri, son assistant vocal. Pratique qu'Apple niait fermement. D'ailleurs, Siri me le confirme.
Dis Siri, est-ce que tu m'enregistres ?
Non, je respecte votre vie privée et n'écoute que lorsque vous me parlez. Vous pouvez en apprendre plus sur les mesures de protection de votre vie privée sur le site d'Apple.
Les plaignants américains s'étonnaient pourtant, à l'époque, avant 2019, d'avoir reçu des pubs pour des baskets Jordan après en avoir parlé ou pour un restaurant après l'avoir mentionné dans une conversation. Mais tout ceci ressemble fort, vous me direz, à une petite forme de complotisme technologique. Où s'arrête la parano et où commence la surveillance généralisée ? C'est la question qu'on pose aujourd'hui et à laquelle on répond de façon fort documentée. Est-ce que Siri vous enregistre véritablement lorsque vous lui parlez, sans vous en avoir correctement informé ? Est-ce qu'il collecte, conserve les données parfois très sensibles que vous lui confiez ? Ou en tout cas, l'a-t-il fait par le passé ? Enfin, et surtout, est-ce que Siri est capable de vous enregistrer à votre insu ? Apple, évidemment, s'en défend. Tout de suite, c'est l'histoire de Thomas Le Boniek, un garçon qui dit le contraire, par Karine Lelouet.
Je m'appelle Thomas Le Boniek, je suis doctorant en sociologie à l'Institut Polytechnique de Paris. J'avais fini mon master de sociologie en septembre 2018 et à ce moment-là, j'avais commencé à chercher du travail et pendant plusieurs mois, j'avais par exemple créé un profil sur le site de l'Agence pour l'emploi des cadres et c'est donc par ce moyen-là qu'en février-mars 2019, j'ai été contacté par une recruteuse en freelance et donc c'était une offre d'emploi pour devenir data analyst. Sur le papier, quand on vous dit data analyst, vous vous dites c'est quelque chose où vous allez avoir à manipuler beaucoup de chiffres, faire des statistiques compliquées. En fait, c'était pas du tout ça. Alors, on vous explique que c'est un travail en Irlande, donc vous allez devoir partir à Cork, qu'on vous propose un salaire qui a l'air très bien, hein, c'est plus de 2000 euros, c'est 2200, 2600 euros par mois brut. Pour le jeune diplômé que j'étais, qui était en charge d'emploi, qui trouvait nulle part, ça avait l'air intéressant. Mais surtout, on ne vous dit pas vraiment ce que c'est. On vous dit que vous allez contrôler la qualité des données. Au fur et à mesure des entretiens, vous finissez par comprendre plus ou moins que ça a à voir avec de l'audio. On vous dit à demi-mot que ça va être avec une des grosses boîtes, un des GAFAM. L'offre d'emploi, elle est postée par une entreprise qui s'appelle Globe Technical Service. Et en fait, on apprend après avoir signé le contrat, je crois, que en fait c'est un sous-traitant pour Apple et que même si vous êtes employé par Globe Technical Service, vous allez travailler pour Apple et passer un certain temps, en fait, on vous dit que vous devez signer une clause de confidentialité en même temps que vous signez le contrat. Et une fois que vous avez fait ça, on vous envoie en Irlande avec une date de départ. Donc c'est ça que j'ai fait. J'ai pris l'avion un week-end et le lundi suivant, je commençais avec une dizaine ou une vingtaine d'autres personnes. Et le premier jour, on vous explique en quoi ça va consister. On vous dit que vous allez travailler sur des enregistrements réels de personnes qui sont en train de parler à leur assistant vocal. C'est pas du direct, c'est du différé. Vous allez avoir un Mac devant vous, vous allez avoir une adresse mail Apple, vous allez avoir un contremaître Apple. Et donc vous allez écouter 1300 enregistrements par jour et vous allez corriger la transcription qui en est faite de l'audio vers l'écrit. Donc Apple, ce qu'ils disent, c'est on veut améliorer la capacité de reconnaissance de l'assistant vocal pour améliorer sa capacité de reconnaissance. Vous voyez, c'est une roue qui tourne sur elle-même sans fin. Jusque-là, en fait, moi je n'avais pas compris, parce qu'ils ne nous l'avaient pas dit, que c'était des enregistrements de personnes réelles, c'est-à-dire des personnes qui sont en train de parler à leur assistant vocal. Et c'était pas ce qui était sous-entendu plus ou moins au moment de la phase de recrutement, des enregistrements d'acteurs, des personnes qui sont en train de faire don de leur voix ou qui sont payées pour lire des textes. Non, c'était des enregistrements en situation réelle. Je me souviens encore de mon premier enregistrement parce que j'étais très surpris, je comprenais pas bien ce qui se passait. C'était quelqu'un qui était en train de soliloquer avec des onomatopées, c'était pas très clair. Mais ce qui était par contre très évident à ce moment-là, c'est que cette personne était dans son intimité, elle s'attendait pas à être enregistrée, quoi. Donc dans les locaux, ils faisaient venir principalement des anglophones, hein, mais il y avait effectivement des Français qui arrivaient. On n'était pas très très nombreux, mais ils avaient une équipe de francophones qui venaient. Le plus souvent, on avait tous à peu près le même âge. C'était plutôt des gens qui avaient moins de 30 ans et qui étaient diplômés, qui avaient un master de biologie, une licence d'art, de théâtre. Je me demande s'il n'y avait pas aussi des docteurs ou des doctorants dans le tas. Moi, j'ai tendance à présumer que c'était parce que leur objectif, à ce moment-là, c'était de recruter des personnes qui sont censées être bonnes à l'écrit. Donc en fait, sur l'interface sur laquelle on travaillait, on pouvait voir, par exemple, combien d'enregistrements il y avait par projet et par pays. Donc les projets sont organisés par trimestre et par langue parlée. Donc vous avez par exemple entre 800 000 et 1,2 million d'enregistrements pour des iPads ou pour des montres connectées ou les AirPods, et ça pour chacun des pays pour lesquels le projet est en cours. Et donc vous avez des dizaines et des dizaines, peut-être même, je sais pas, des centaines de projets. Donc tous les jours, 1300 enregistrements de personnes qui sont en train de parler à leur téléphone alors qu'elles sont en train de conduire en voiture. Ou ça peut être les iPads. Quand vous travaillez sur les iPads, par exemple, vous entendez beaucoup d'enfants. Beaucoup, beaucoup d'enfants. Donc, vous avez un enregistrement et vous entendez quelqu'un en train de dire « Appelle X ou Y, fais-moi écouter de la musique, trouve-moi telle adresse » ou en train de dicter un message. Donc, vous regardez la manière dont ça a été retranscrit et puis vous le corrigez. Et si, pour une raison ou une autre, cet enregistrement n'est pas d'assez bonne qualité, il y a des boutons qui s'appellent des stopping conditions, et vous cliquez sur ce bouton, et c'est censé disqualifier cet enregistrement. Donc on faisait du nettoyage, en fait. Et parmi ceux-là, il y en avait un en particulier, intitulé Accidental Trigger, donc déclenchement accidentel, et vous cliquez sur ce bouton seulement quand vous aviez la certitude que les personnes qui étaient enregistrées n'était pas en train de s'adresser à leur assistant vocal. Et donc c'était comme ça en fait qu'Apple décrétait ce qui était selon eux justifié ou non. Mais ça veut dire aussi qu'ils acceptaient par principe d'enregistrer les gens à leur insu, y compris lorsqu'ils sont pas en train de s'adresser à leur assistant vocal. Je me souviens d'un groupe de personnes qui sont manifestement au restaurant ou dans un bar, qui sont en train de rire. Donc on entend l'enregistrement de tout le bruit autour d'eux, et ils sont en train de dire « Regarde, il s'est déclenché, c'est drôle, ça s'est déclenché spontanément, tout seul. » Ils sont en train de se marrer. Des exemples comme ça, il y en a en quantité. Et puis, en fait, en gros, c'est une chaîne de production, hein. Il y a donc le travail de nettoyage, j'étais là-dessus, et puis plus tard, vous avez aussi des gens qui travaillent sur ces mêmes enregistrements une fois qu'ils ont été nettoyés, et dont le boulot consistait à identifier des mots-clés dans l'enregistrement et puis à les associer à des données qui venaient du même appareil. Donc je vous donne un exemple. Vous avez quelqu'un qui est en train de dire « Appelle maman ». À partir du moment où vous avez un enregistrement de quelqu'un qui est en train de prononcer le nom de quelqu'un d'autre ou en train de dicter le numéro de téléphone de quelqu'un d'autre, ou bien que cet enregistrement va être associé aux données issues de l'appareil et que les données issues de l'appareil, ça inclut tout votre annuaire, eh bien vous voyez que les données personnelles et la vie privée, c'est une affaire collective. Donc ça veut dire que la personne qui est lésée, ça n'est pas uniquement celle qui est en train d'être enregistrée, c'est aussi tous ses contacts, c'est aussi tout son entourage. Je pense que les choses les plus choquantes, c'était les personnes qui étaient en train de parler de leur santé, de choses très intimes à propos de leurs proches. Je me souviens en fait de quelqu'un qui est en train de parler d'une sclérose en plaques, d'une fausse couche, de problèmes de santé mentale, de rupture amoureuse. Et puis ensuite, on entre aussi dans la catégorie des données dites sensibles au regard du règlement général sur la protection des données. Et donc là, vous avez par exemple des gens qui sont en train de donner leur opinion politique, qui sont en train d'exprimer leur appartenance syndicale. Vous avez aussi des choses sexuelles, hein, évidemment, beaucoup. Ça peut être très gênant parfois. Et puis vous avez des enfants qui sont en train de parler à leur tablette, qui essaient de la débloquer, ou bien qui jouent avec comme si c'était un camarade, et donc qui demandent à Siri s'il veut bien être son amoureux, ce genre de choses. À partir du moment où vous cliquez sur « Accepter les conditions générales d'utilisation », ils partent du principe que, par défaut, vous pouvez être enregistré à votre insu à tout moment. Avec le déclenchement de l'assistant vocal, c'est OK, c'est légal pour eux, selon eux. Je pense pas qu'on soit vraiment au courant de ce que ça représente d'avoir un mouchard dans la poche à tout moment. Et justement, je me souviens d'avoir eu des discussions à ce propos-là, mais je trouvais ça très choquant dès le départ. Et donc à la sortie du bureau, un jour, je parle avec une collègue et elle dit « Il y a ce paradoxe qui est qu'il y a des gens qui sont en train de travailler à écouter ces enregistrements et à les corriger, et en même temps ils ont un iPhone. » Et donc cette collègue me dit « Mais moi j'ai rien à cacher. » Moi je lui ai dit « Ouais, mais tu fais des milliers d'enregistrements par jour. Ce sont des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes qui n'ont soi-disant rien à cacher. » Je crois qu'il y avait une sensation de résignation. De c'est comme ça, on n'a pas vraiment le choix. C'est une expression qui revient très souvent, hein. Moi j'ai rien à cacher, de toute façon ma vie est insignifiante au regard de ces entreprises, quelle importance. Et ça je pense que c'est très grave, je pense que c'est un gros problème. Notamment parce que vous savez pas ce que vous avez à cacher, en fait. C'est le principe même de la surveillance constante, en fait. Vous ne savez pas quand vous aurez commis un impair, ni si rétroactivement, en fait, une chose que vous êtes ou une chose que vous faites devient illégale ou répréhensible. Lorsque c'est une grande multinationale du numérique, comme Apple, Google, maintenant OpenAI, vous faites appel à des milliers, des milliers, des milliers de tâcherons. On n'était pas avec eux, on n'était pas comme eux, on était des tâcherons, quoi. Donc, vous n'êtes pas vraiment en mesure de vous assurer que tout le monde va respecter les obligations de confidentialité que vous essayez de leur imposer. Donc, il faut tenter de les discipliner. Et c'était un peu l'idée, c'était d'essayer de vous intimider au maximum, parce qu'on vous disait très clairement, vous avez le droit d'en parler à personne, vous parlez pas à votre famille, vous parlez pas à vos amis, vous parlez pas entre vous de ça. Même lorsqu'on était au travail avec le casque vissé sur les oreilles, on n'était pas censé se parler entre nous. Et évidemment, la grande interdiction, c'était, vous n'en parlez surtout pas à des journalistes. Moi, je pense qu'Apple, ils étaient parfaitement au courant que ce qu'ils étaient en train de faire, c'était complètement illégitime au strict minimum. Moi, je continue de penser que c'est complètement illégal ce qu'ils ont fait et ce qu'ils nous ont fait faire, et que leur objectif, en fait, c'était de contrôler un peu les personnes qui étaient chargées de faire ce travail-là. Et donc, nous, en fait, on avait des obligations en termes de quantité et de qualité. Donc, 1300 enregistrements par jour, et puis il fallait contrôler la qualité. Donc, tous les jours, il y avait 50 enregistrements qui étaient choisis au hasard dans ceux que vous aviez fait. Il y avait quelqu'un que vous ne voyiez pas, qui regardait votre correction ou votre évaluation et qui vous disait c'est juste, c'est pas juste. Voilà. Donc le contremaître, eh bien, il faisait parfois la ronde autour de nous, et puis quand il voyait deux personnes qui étaient en train de parler ou de se marrer, il allait les voir et leur disait vous êtes en train de contaminer les données, arrêtez. Ça donnait vraiment la sensation d'être dans une cour d'école, hein, vraiment. Ça m'avait rappelé le collège, quoi. Et on vous dit de rester assis pendant des heures, on vous dit de respecter les consignes, on vous fait taire quand vous devez vous taire. Il y avait quelque chose comme ça. Hein. Et donc on était très infantilisés, et si, c'était extrêmement autoritaire. Alors, on nous dit, vous allez écouter des enregistrements de toutes sortes. Hein. Ça peut être des choses violentes, pornographiques, des choses particulièrement sensibles. Si vraiment c'est trop, signalez-le à votre supérieur. Moi, je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait. Ça n'a strictement rien donné. On leur a dit, va falloir gérer ça, les gars, parce que c'est le contenu du travail. Vous étiez censé avoir un accompagnement psychologique qui était nul. En gros, il y avait un numéro pour de l'accompagnement psychologique si vous en aviez besoin, quoi. Et c'est tout. Donc ce travail d'annotation, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu dans le monde entier. Donc vous avez les modérateurs de contenu notamment qui font ça pour TikTok, pour Facebook, pour Instagram. On est dans la même catégorie de boulot, sauf que les personnes qui font ça au Kenya par exemple sont beaucoup plus maltraitées, évidemment, beaucoup moins bien payées. Et quand vous faites de la modération de contenu, ça veut dire que vous regardez des centaines de vidéos violentes tous les jours. et ce sont des personnes qui sont traumatisées à l'heure actuelle. Voilà. Donc le travail d'annotation de la donnée, le travail d'entraînement des intelligences artificielles, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu et qui est beaucoup plus large, qui se limite pas aux assistants vocaux. Et ça implique effectivement à la fois des méthodes de collecte de données de masse qui sont généralement extrêmement abusives, sinon illégales, et une main-d'œuvre mondialisée, extrêmement précaire, remplaçable, corvéable à merci. Relativement parlant, j'étais pas si mal noté que ça, même si on était effectivement dans des bureaux où on sentait la pression permanente sur nous. Il y avait des gens qui se faisaient virer du jour au lendemain, il y avait des avertissements qui tombaient, on nous mettait la pression, quoi. Parce que la qualité n'était pas suffisante, parce qu'on n'était pas... En fait, en gros, on était qualifié sur 50 enregistrements, il fallait qu'on fasse au moins 90% d'exactitude. Donc ça veut dire 45 enregistrements sur 50 qui sont validés. Et si vous passiez en dessous de ce chiffre-là, il me semble, au bout de 2 ou 3 jours, vous aviez un avertissement, vous étiez convoqué par les contremaîtres, ils viraient les gens du jour au lendemain sans qu'ils comprennent. Je me souviens d'une Française qui était arrivée, qui a été virée avant même la fin de sa période d'entraînement, avant la fin de la semaine, et qui se retrouvait dans la mouise, quoi, parce qu'elle avait dépensé de l'argent pour se retrouver en Irlande, mais du jour au lendemain, plus de travail, au bout de 2-3 jours. Et en fait, il y avait un taux de roulement très élevé. Il y avait beaucoup de gens qui repartaient très rapidement parce que c'est un boulot très rébarbatif, on va dire. Donc, moi, je voulais partir, mais il m'en fallait les moyens. Donc, j'ai essayé de tenir un certain temps. Et puis, au bout de 2 mois, effectivement, j'en pouvais plus. Puis, j'ai décidé de partir. Et donc, je me suis préparé. J'ai pris quelques jours. Et en fait, je savais à ce moment-là qu'il fallait que je le documente, que je pouvais pas partir sans preuve. Donc, j'ai commencé à prendre des captures d'écran de ce que je voyais. Et ça me faisait très peur. Alors, dans les captures d'écran, il y a des exemples d'enregistrement, donc avec l'interface qui montre notamment la transcription qui est faite et que je devais corriger. Il y a des chiffres, des statistiques qui montrent, par exemple, pour un projet sur un trimestre et sur un dispositif, donc iPad, Apple Watch ou autre, le nombre d'enregistrements pour un pays. Donc, par exemple, ces captures d'écran-là montrent 8, 10, 12 pays et 800 000, 1,2 million d'enregistrements par pays. Voilà. Donc, je suis rentré en France, j'ai pris l'avion, j'ai pris ce qui me restait de jours de congé. Et jusqu'au moment où ils m'ont envoyé une lettre de licenciement qui disait « Vous vous êtes plus présenté depuis tel jour ». Je leur ai envoyé signer et ça y est, c'est bon, on se parle plus. Mais je n'étais qu'un parmi des dizaines à faire ce genre de choses, à plus se présenter du jour au lendemain, parce que... Quel bout de merde, quoi. Et donc moi, quand je suis parti vers juillet-août 2019, au bout de 2 mois et demi, je me disais qu'il fallait faire quelque chose, mais en même temps, j'étais quand même assez inquiet. À cause de cette clause de confidentialité qui vous dit, en gros, on peut vous attaquer en justice, en Irlande, et parce que vous avez signé ce document, vous acceptez par défaut la responsabilité de tous les dommages économiques que le client, donc Apple, estimerait pouvoir vous imputer. Donc si jamais il venait à décider que c'était moi qui étais responsable de dommages économiques à la hauteur de 1 milliard de dollars, il m'aurait rendu responsable. Je savais pas trop quoi faire. Et puis un jour, ça fait la une du Guardian, ça fait la une de El País. Ils disent Apple, Microsoft, Amazon sont en train de vous enregistrer à votre insu. Il y a des milliers de personnes qui sont en train de faire ce travail-là. Et donc ils montrent des captures d'écran, eux aussi, qu'ils ont récupérées par d'autres travailleurs. Et je me dis, c'est mon tour. Et donc à ce moment-là, j'ai contacté Mediapart, j'ai contacté The Guardian. J'ai contacté El País et puis je leur ai donné ce que j'avais. J'avais des choses en plus à leur donner et donc ils en ont fait des articles. Et donc ça, c'était la deuxième moitié de 2019. Donc sortir de l'anonymat, c'est un acte politique, c'est un acte de défi, quoi, un peu. Et quelques mois plus tard, donc le 20 mai 2020, on fête le deuxième anniversaire du règlement général pour la protection des données. Donc qui est un règlement européen qui s'applique partout de la même manière, dans tous les pays membres de l'Union européenne. Et en collaboration avec une organisation qui s'appelle NOIB, None of Your Business, Je prépare une lettre ouverte à destination des agences de protection des données en leur disant « Moi, je me tiens à votre disposition, j'ai des preuves. C'est un système d'enregistrement de masse choquant et illégal. Pourquoi vous n'ouvrez pas une enquête ?» Et donc, j'envoie cette lettre ouverte aux agences de protection des données, donc 27, une par pays. Et ceux qui me répondent me disent poliment « Merci, mais il faut aller voir les Irlandais. » Donc moi j'ai fait faire un signalement à la CNIL qu'il a transmis à l'Agence irlandaise de protection des données il y a 4 ou 5 ans au moins, et ça n'a jamais rien donné. Je les relance de temps en temps, ils me répondent même pas. Donc en 2020, j'ai compris que en fait ça allait pas lâcher le morceau, ça voulait dire continuer pendant un certain temps. Ça voulait dire essayer de trouver des interlocuteurs pour essayer de porter le sujet. Donc je me suis tourné vers le politique, je me suis tourné vers des avocats, vers des associations, en essayant de leur demander systématiquement « mais comment porter cette affaire ?». Ça m'avait semblé très curieux, mais ça faisait partie des choses qui semblaient pas intéresser grand monde. Et ça a pris très très longtemps, mais donc enfin, en février 2025, on a une plainte qui a été déposée par la Ligue des droits de l'homme pour atteinte à la vie privée. Et donc on a eu la confirmation début octobre de l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris. Quelque part aussi, c'est la reconnaissance que ce que vous avez fait avait une utilité. Et ça, c'est vraiment ce qui me désespérait le plus. C'était de me dire que tout ce que j'avais fait jusque-là ne servait à rien et que je m'étais potentiellement grillé pour rien, quoi. De voir l'inutilité de ces efforts-là, c'était vraiment quelque chose qui pesait très lourd, quoi. Cette enquête, pour moi, elle se situe aussi dans un ensemble plus large qui est donc le capitalisme de la surveillance. C'est le fait que la collecte de données de masse est un commerce, mais c'est aussi un commerce qui montre une imbrication très forte entre le privé et le public. C'est Apple qui collecte des centaines de millions d'enregistrements, mais c'est aussi les agences de renseignement américaines qui ont accès potentiellement à toutes ces informations-là. Donc on est dans un régime de surveillance de masse qui peut avoir des enjeux de surveillance d'État, en fait. Donc, en Hongrie, vous êtes membre de la communauté LGBT, vous êtes ciblé pour ça. Aux États-Unis, vous êtes au Texas, vous êtes une femme qui a une irrégularité dans ses cycles menstruels et qui se demande si elle va devoir avorter, vous êtes potentiellement ciblé. Vous êtes sans papier ou présumé sans papier aux États-Unis, partout dans le pays, vous êtes ciblé par l'agence fédérale chargée des déportations, qui travaille main dans la main avec une très grosse boîte qui s'appelle Palantir, qui est une entreprise de surveillance de masse, dont c'est le travail principal. Et il s'avère qu'ils ont en France la déléguée à la protection des données qui s'appelle Julie Martinez et qui est également porte-parole du Parti Socialiste. Et aussi, donc on a en France une sorte de consensus dans l'idée que la surveillance c'est très bien, qu'il faut mettre des vidéos de surveillance partout, que espionner les gens à leur insu c'est très bien parce que ça permet d'éventuellement de choper des narcotrafiquants, ou bien des pédophiles, ou bien des terroristes. Donc voilà, ça c'est le prétexte. Et en fait, quand je dis que c'est un consensus, c'est que ça intéresse tout un tas de politiques. En 2023, il y avait la loi de programmation du ministère de la Justice qui était portée par Éric Dupond-Moretti, donc des macronistes, avec un article qui permettait à un juge d'autoriser l'activation à distance des dispositifs électroniques, donc en fait les téléphones portables principalement, pour capter de l'audio et de la vidéo des fins de surveillance par la police. Ça, c'est une idée qui a été reprise par Bruno Retailleau dans son projet de loi sur le narcotrafic. Heureusement, il me semble que dans ces deux cas-là, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Ou bien les déclarations de Stéphane Le Rudulier, sénateur LR, qui dit en 2023, au moment de l'examen d'un projet de loi sur la reconnaissance faciale, en gros, vous donnez bien toutes vos données constamment à des multinationales américaines qui peuvent capter vos données avec vos voitures, avec vos enceintes connectées, et vous ne laisseriez pas l'État et la police le faire alors qu'ils sont censés être là pour vous protéger. Là-dessus, il n'y a aucune différence fondamentale entre le Parti Socialiste, LR et les Macronistes. Ils sont tous d'accord là-dessus. Et là où c'est vraiment inquiétant, c'est que ce sont des dérives vraiment autoritaires et liberticides. Moi, j'utilise régulièrement cette phrase comme citation qui est de Shoshana Zuboff, qui est donc une philosophe qui a écrit « Le capitalisme de surveillance ». Et lorsque il y a eu une tentative de coup d'État par Donald Trump en janvier 2021, elle a sorti une tribune dans le New York Times et elle conclut par « On peut avoir une société de surveillance ou on peut avoir une démocratie, mais on ne peut pas avoir les deux ».
C'était Dis Siri, est-ce que tu m'enregistres ? Un reportage de Karine Lelouette avec un bon coup de main de Luce Mourant, réalisé par Nathalie Salle et Clémence Gros. Je précise que nous avons bien sûr sollicité d'Apple une réponse aux accusations portées par Thomas Le Boniek. Le service de presse nous a envoyé deux communiqués que vous pourrez trouver in extenso sur notre page web et qui expliquent en substance que selon la firme américaine, les choses ont beaucoup changé depuis 2019. Dans le premier communiqué, notamment publié en août 2019, donc très peu de temps après le départ de Thomas Le Boniek d'Irlande, Apple annonce suspendre son programme de notation Siri. Toujours en août 2019, la société précise qu'elle a rendu la participation au programme d'amélioration du logiciel optionnel pour les utilisateurs et révocable à tout instant. Elle dit aussi avoir cessé de conserver les enregistrements déclenchés de manière accidentelle. Voilà, l'enquête est ouverte par le parquet de Paris. Elle l'a été le 6 octobre, elle est en cours et la société Apple est bien sûr présumée innocente. Merci à Thomas Le Boniek, à Valentin Rémy qui est l'attaché de production des Pieds sur Terre et à Mina Morel. Is mine, is mine, is mine, is mine, is mine, is mine.